بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le but de mon intervention est d'aborder le hadith numéro 15. Le hadith numéro 15. Alors ce hadith nous présente des vertus qui, si elles sont pratiquées et mises en pratique, elles garantissent l'union de la communauté musulmane. Elles rapprochent les cœurs et elles éloignent les mauvais sentiments. Elles préservent la collectivité de tout trouble et permettent aux gens de vivre en toute quiétude et dans le respect, inshallah ta'ala. Le hadith, c'est le suivant. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Donc ce hadith rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه qui nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou il se taise, ou qu'il se taise. Que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Et que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, qu'il honore son invité. Alors ici ce hadith nous présente trois grandes vertus. Donc il y a trois grandes vertus qui sont citées dans ce hadith. Parmi ces vertus, il y a le fait que l'individu doit préserver sa langue. La deuxième vertu, c'est le fait de prendre soin de son voisin. Et la troisième vertu, c'est le fait de prendre soin de son invité. On va commencer par la première vertu qui est justement de préserver et de maîtriser sa langue. Dans la parole dans laquelle le prophète nous dit « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yaqul khayran aw liyasmut » Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et ici, en lisant cette parole, subhanallah, en méditant un peu cette parole, on s'aperçoit en fin de compte qu'on oublie trop souvent que la langue, yani, peut provoquer des dangers. Des dangers extrêmement graves. Bien souvent, on parle sans mesurer les dégâts qu'elle peut causer, cette langue, ce petit muscle. Bien souvent, on oublie. Est-ce que lorsqu'on parle, on réfléchit réellement aux conséquences de nos propos? Est-ce que lorsqu'on parle, on mesure l'impact des mots sur les relations qu'on a avec les autres? Est-ce que lorsqu'on parle, on prend conscience que nos propos peuvent blesser, et encore pire, peuvent rompre des relations? Des relations des fois entre deux musulmans? Des relations des fois entre des membres de famille, des relations entre des enfants et leurs parents, des relations entre deux conjoints qui provoquent un divorce tout simplement. Donc être la cause de ces séparations. Donc la langue peut être la cause de ces séparations. Et surtout, et là l'une des choses les plus graves également, c'est que l'on oublie bien souvent que lorsqu'on parle, on rendra des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. On rendra des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala sur chaque tort causé par notre langue. Et ici, la première chose à dire, c'est que avant de parler, le musulman doit méditer, réfléchir et avoir à l'esprit les qualités suivantes. Les qualités dont doit être doté le musulman et les éléments sur lesquels il doit méditer. La première chose, c'est que le musulman, il ne nuit pas aux autres. Le musulman est un serviteur, est un individu qui ne nuit pas à autrui. Comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Donc le musulman est quelqu'un dont les gens sont protégés de sa langue et de ses membres, de ses agissements, de sa main. L'autre qualité, c'est que le musulman a un caractère sacré. Le musulman en islam a un caractère sacré. Comme nous dit le prophète sallam lors de son prêche d'adieu durant le hajj qu'il a fait, il dit « Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت. Il nous dit certes, votre sang, vos biens et vos honneurs sont sacrés comme ce jour est sacré. Donc ici, quand il dit comme ce jour est sacré, ici, il s'agit de Arafah, car il s'agit du pèlerinage. Le jour de Arafah lors du pèlerinage. Comme ce jour est sacré, comme ce mois est sacré, Dhul Hijjah ici, et comme ce lieu est sacré. Donc ici, il est à Minan à ce moment-là lorsqu'il fit son prêche. Et donc ici, on comprend tout simplement que la sacralité du musulman est grande et très importante. Et comme on respecte la sacralité du jour de Arafah, comme on respecte la sacralité du lieu Minan et de Mecca, Masjid al-Haram de manière générale, comme on respecte la sacralité de Dhul Hijjah, au même titre, on doit respecter la sacralité du musulman dans ses biens, dans son honneur et dans son sang. Dans son sang, le fait de ne pas yani, le tuer, le combattre, etc. L'autre qualité que le musulman doit méditer, ou l'autre élément sur lequel doit méditer le musulman, c'est qu'il a foi en l'invisible. Il a foi en l'invisible et il sait que tout ce qu'il dit sera retranscrit. Comme nous dit Allah Ta'ala, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc ici à nouveau le musulman est doté de cette qualité de la foi en l'invisible et il médite là-dessus également avant de parler car il sait très bien que chaque propos et surtout les propos sur lesquels il y aura des torts, il devra rendre des comptes là-dessus car il y a des scribes qui effectivement reprennent chacun de ses propos dans des feuillets. Également, le musulman, le serviteur, si malgré tout ça, il ne maîtrise pas et ne mesure pas les conséquences de ses propos, alors à ce moment-là, il s'expose à de grands dangers. Il s'expose à de grands dangers pour sa vie présente et pour l'au-delà. Parmi ces dangers, on va en citer quelques-uns rapidement, l'impact sur son cœur. L'impact sur son cœur. Son cœur devient malade. Son cœur devient malade spirituellement. Comme nous le dit ici le prophète sallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Donc ici on voit très bien que le cœur est très fortement lié ici comme nous le dit le hadith, la foi d'un serviteur ne sera droite tant que son cœur ne sera pas droit. Et son cœur ne sera pas droit tant que sa langue ne sera pas droite. Donc ici, on voit très clairement que la langue impacte très fortement le cœur. La langue impacte très fortement le cœur. Ça, on oublie très souvent ça. Le fait que lorsqu'on parle, beaucoup de gens sont touchés par des maladies du cœur, comme la jalousie, la colère, etc. Ils oublient effectivement que toutes ces maladies-là sont liées justement à leur langue à la base. La langue contribue beaucoup à cette maladie ou à ces maladies du cœur. Toujours concernant le cœur, le prophète sallam nous dit que le cœur noircit. Le cœur noircit à force de commettre des péchés. Et le fait de parler de manière mauvaise, avec des propos qui peuvent rabaisser, qui peuvent dénigrer des personnes, insulter, etc., ça contribue justement à noircir le cœur. Comme nous dit le prophète sallam, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَى فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ مِنْهَا سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوا قَلْبَهُ. Donc ici, le prophète nous dit, certes serviteur, lorsqu'il commet un péché, alors à ce moment-là, un point noir s'installe sur son cœur. Et s'il se repentit de ce péché, à ce moment-là, ce point noir s'enlève. Son cœur redevient pur. Mais si ceci continue, s'il persiste dans les péchés, s'il persiste à ce moment-là, le cœur commence à être enveloppé de cette noirceur, couvert de cette noirceur. Et si à ce moment-là, le cœur devient de plus en plus malade. Donc ça, c'était le premier danger. Deuxième danger, l'un des plus grands dangers également, c'est que le serviteur court à sa perte, notamment, il s'expose clairement à la destination de l'enfer à travers sa langue. Comme nous le dit ici Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, lorsque le prophète s'adressait à lui, donc il parlait avec Mu'ad ibn Jabal, et dans la discussion, le prophète sallam lui dit « Kuffa alayka hadha, kuffa alayka hadha, faqultu, ya nabiyallah, wa inna la mu'akhadhun bima natakallamu bihi, فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ Donc, Mouad ibn Jabal, ici, est en train de discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la discussion, il lui explique qu'il te suffit de maîtriser ça. Donc, il lui dit à Mouad, ya Mouad, il te suffit de maîtriser ça. Et donc, il montre sa langue, donc en signe, pour lui montrer effectivement qu'il faut maîtriser sa langue. Et Mouad lui dit: je dis au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, serons-nous sanctionnés pour ce que nous disons? Alors à ce moment-là, le prophète sallam lui répondit: que ta mère te perde. Donc ici c'est une expression arabe pour dire, yani, pour montrer l'importance capitale d'une affaire, pour attirer l'attention, yani, pour essayer un petit peu de bousculer l'interlocuteur. Et lui dit donc: n'est-ce pas essentiellement à cause de leur langue que les gens seront jetés sur leur visage ou sur leur nez en enfer? Donc ici on voit très clairement que la langue est l'une des grandes causes qui pousse le serviteur et qui provoquera la perte du serviteur en enfer. Voilà, iyadu billah. Également, le troisième danger, c'est d'être détesté par Allah subhanahu wa ta'ala et d'encourir sa malédiction. Et ici, on a différents hadiths qui montrent qu'effectivement, certains méfaits de la langue peuvent provoquer la malédiction et également la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous dit ici le prophète sallam, inna abghadha ar-rijal ila Allahi al-aladu al-khasim. Certes, les plus détestés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les hommes sont ceux qui polémiquent de manière excessive. Sont ceux qui polémiquent de manière excessive pour faire triompher le faux. Donc ici, clairement, on voit très bien que la personne qui polémique pour faire triompher le faux, ou qui n'a aucune motivation de bien, à ce moment-là, effectivement, elle tombe sous le coup de ce hadith, sous le danger de ce hadith, qui est justement là, le fait d'être détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Également, un autre hadith qui nous montre que le serviteur encourt la malédiction. وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَوَيْلٌ لَهُ. Donc ici le hadith est assez menaçant, est assez clair. Il nous dit: malédiction à celui qui parle d'un propos pour faire rire le peuple, pour faire rire les gens, son entourage, en prononçant des mensonges. C'est-à-dire qu'il dit des mensonges. Et ici le hadith termine en disant وَيْلٌ لَهُ وَوَيْلٌ لَهُ. Il répète ici deux fois que la malédiction soit sur lui, que la malédiction soit sur lui. Donc effectivement ici le fait même de plaisanter, mais dans le mensonge, effectivement, c'est quelque chose qui est prohibé, qui est interdit. Car effectivement, le prophète, quand il plaisantait, il ne plaisantait pas à travers le mensonge, mais il plaisantait uniquement dans la vérité. Uniquement dans la vérité. Également, parmi l'autre danger, l'un des dangers les plus dramatiques et les plus conséquents, c'est le fait que le musulman s'expose à la perte de ses bonnes actions. Ou plutôt, à la redistribution de ses bonnes actions. Comme nous le rapporte le hadith, rapporté par Muslim selon Abu Huraira. Donc, dans lequel le prophète nous dit: atadruna man al-muflis qalu al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata' fa qala inna al-muflisa min ummati man yati yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati wa qad shatamak hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. Et donc ici le prophète sallam pose la question: savez-vous qui est touché par la grande faillite? Et ici les compagnons disent effectivement: Ya Rasulallah, celui qui est touché par la faillite, c'est celui qui n'a plus d'argent et qui n'a plus de biens, qui n'a plus de marchandises. Et le prophète sallam répondit: la vraie personne, la personne qui est réellement touchée par la faillite, parmi les gens de ma communauté, c'est celui qui viendra le jour de la résurrection, avec des prières, avec sa prière, avec des jeûnes, le jeûne qu'il aura effectué, avec des aumônes, et alors qu'il viendra avec toutes ses bonnes actions, il viendra, mais en fin de compte, il a insulté un tel, il a calomnié un tel, il a mangé les biens de un tel, il a fait couler le sang de un tel, il a frappé un tel. Alors à ce moment-là, il sera donné à la victime de ses bonnes actions. Il sera donné à un tel de ses bonnes actions. Il sera donné à un autre qui a subi une injustice de sa part. Il sera donné de ses bonnes actions. Et si ses bonnes actions se terminent avant qu'il ait pu se racheter, à ce moment-là, il sera pris des mauvaises actions des autres et ces mauvaises actions lui seront jetées dessus. Et il sera également jeté en enfer. Wal'iyadu billah, que Dieu nous préserve de tout ça. Donc ici, effectivement, on voit que le serviteur qui ne mesure pas ses propos s'expose à de grands dangers. Et ici, on le voit à travers les pieux prédécesseurs, comment ils cherchaient à se prémunir de ces dangers. Les pieux prédécesseurs, on le voit à travers les propos qu'ils avaient, à travers leur manière de se comporter, quant à la manière de maîtriser leur langue. On prend ici exemple tout simplement l'exemple d'Ibn Mas'ud qui nous dit « Ma shay'un ahwaju ila tuli sijnin min lisani » Il n'y a pas de chose qui mérite plus une peine de prison longue que ma langue. Également, Abu Darda, ici, il nous dit « Ansif udhunayk min fik fa innama ju'ilat laka udhunani wa fammun wahid litastami'a akthara mimma tatakallamu bih » Il nous dit « Utilise davantage tes oreilles que ta langue. » Car il t'a été donné deux oreilles et une bouche, afin que tu écoutes plus que tu ne parles. Également, Abu Ali al-Diqaq, il nous dit Al-insan, yani, la yalbaghi lahu, an yakhruja min kalamihi illa ma yahtaju ilayh, kama annahu la yunfiqu min kasbihi illa ma yahtaju ilayh. Le serviteur doit être aussi minutieux avec la parole qu'il l'est lorsqu'il dépense son argent. Yani, il dépense que en cas de besoin, uniquement en cas de besoin. Également, une parole ici, effectivement, cette parole nous fait un petit peu frémir un petit peu la parole suivante. Il nous dit, donc à Abu Ali al-Diqaq, « Law kuntum tashtarun al-karit lil-hafadha, la sakittum an kathirin min al-kalam. » Donc effectivement, il nous dit, et on voit ici très clairement, subhanallah, comment il vivait, yani, la spiritualité, au point de même maîtriser leur langue. Et de s'éloigner des interdits en fin de compte. Il nous dit, si vous étiez chargé d'acheter les feuillets sur lesquels écrivent les anges, vous parleriez beaucoup moins. Vous parleriez beaucoup moins. Et également, parmi les pieux prédécesseurs, certains étaient touchés ou étaient victimes de la calomnie plutôt. Étaient victimes de la calomnie. Comme ici, l'exemple de Hassan al-Basri, à qui on lui rapporte qu'un tel ou un tel a parlé sur lui, et il allait voir la personne et lui offrait des dattes pour la remercier en échange de ses bonnes actions qu'il lui donnera ou qu'il lui a données. Également, Wahb ibn Munabbih, quelqu'un est venu le voir en lui disant effectivement qu'un tel ou un tel avait parlé sur toi ou t'avait insulté. يعني قيل له إن فلانا شتمك قال أما وجد الشيطان بريدا غيرك. Et ici on voit comment il blâme la personne qui colporte également ici. La personne est venue la voir en lui disant « Ya Wahb, un tel t'a insulté. » Il répondit « Shaitan n'a-t-il pas trouvé un autre envoyé que toi, un autre facteur que toi ?» Donc ici on voit très clairement comment ils vivaient, yani, leur spiritualité au point de s'interdire, de s'éloigner des interdits, mais également de blâmer les personnes qui tombaient dans ces interdits-là. Parmi les méfaits de la langue, on peut en citer énormément, la médisance, la calomnie, le mensonge, le dénigrement, les insultes, la moquerie, etc. Et ces méfaits, ils ont des causes. Et certains savants ont essayé, en tout cas, de recenser ces différentes causes. À l'exemple de Ibn Qudama, dans Minhaj al-Qasidin, donc il recense un petit peu quelques causes. Et parmi ces causes, il nous cite la colère. La colère, effectivement, qui, dans beaucoup de situations, malheureusement, fait sortir la personne de ses gongs, et donc elle prononce des paroles qui peuvent justement blesser et même des fois créer de la rupture, créer des relations qui sont rompues par la suite. La jalousie également, la jalousie. La personne va essayer de rabaisser un tel ou un tel pour justement se mettre en avant ou être supérieur à elle, etc. Donc en la dénigrant. Et effectivement, là, à nouveau, elle blesse et la relation est rompue. L'excès de plaisanterie également, qui tourne à la moquerie bien souvent. Donc effectivement, la personne qui est ciblée ici finit par être blessée et également elle s'éloigne et la relation est rompue également. Le fait de suivre ses amis, l'effet de groupe, ce que Ibn Qudama appelle al-mudahana, le fait de suivre ses amis de manière aveuglée et donc de manière générale l'effet de groupe, donc surtout dans le fait de partager des péchés, la médisance, la calomnie, le fait de défendre le faux. Et ici, ce qui est dramatique, c'est qu'effectivement, ces méfaits sont contagieux. Donc le méfait est partagé et il est contagieux, il se diffuse dans le groupe. Seule la personne, illa man rahimallah, justement, est capable de se distinguer en disant on arrête là, etc. Et là, à ce moment-là, la personne, justement, soit s'expose à être retirée du groupe, ou tout simplement, elle est écoutée, alhamdoulilah, elle recadre le groupe et le groupe se corrige automatiquement, alhamdoulilah. Et ici, parmi les remèdes qui sont cités par les savants, les remèdes à tous ces méfaits, le premier remède, tout simplement, c'est de se rappeler et de méditer sur les dangers qu'on a cités. Le fait de se rappeler que notre cœur est impacté, premièrement, qu'on s'expose grandement à l'enfer, qu'on s'expose à la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on risque de faire partie des personnes qui sont détestées par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on risque de perdre ses bonnes actions et également de récupérer les mauvaises actions des autres. Donc tous ces éléments-là doivent faire réfléchir la personne avant de parler. Donc c'est un remède qui doit justement corriger la personne au niveau de la maîtrise de sa langue. L'autre élément concernant les remèdes que nous proposent les savants, c'est le fait de reconnaître à juste titre la réalité de l'individu, le fait qu'il est faible. Le fait qu'il est faible, et Allah Ta'ala nous le dit à maintes reprises dans le Coran, wa khuliqa al-insanu dha'ifa, le fait que l'individu n'est rien en fin de compte sur cette terre. Et ici, une parole de Malik ibn Dinar à Al-Muhallib, ou Al-Muhallab, afwan, donc un gouverneur qui lui posa la question, me connais-tu? Donc il lui répondit, donc il lui dit, me connais-tu? Yannis, sous un ton un petit peu orgueilleux. Yannis, sais-tu qui je suis? Il lui répondit, Awaluka nutfa. Awaluka nutfatun madhira. Wa akhiruka jifatun qadhira. Wa anta fima bayna dhak tahmilu al-udhra. Qu'est-ce qu'il lui répondit? Il lui dit, ton commencement est une goutte vile, même pas mentionnable. Ta fin est un cadavre nauséabonde. Et entre les deux stations, entre les deux situations, entre ton début et ta fin, tu es un porteur d'excréments. Donc ici, Malik ibn Dinar, en fin de compte, montre la réalité de l'individu, la réalité de l'être humain. L'être humain qui se permet de critiquer, de se moquer, de dénigrer, de se prendre d'orgueil par rapport aux autres, en fin de compte, il n'est uniquement et uniquement que ce que vient de décrire Malik ibn Dinar. Un simple serviteur faible et en fin de compte qui a un début et une fin, un début qui n'est même pas mentionnable et une fin qui est nauséabonde et entre les deux un porteur d'excréments. Effectivement, l'individu doit se remettre en cause, accepter la réalité de sa situation et méditer sur sa situation et également réfléchir sur ses propres erreurs. Réfléchir sur ses propres erreurs et ne pas, yani, constamment chercher la faute et l'erreur chez l'autre, et critiquer l'autre, et rabaisser l'autre. Comme nous dit ici Omar ibn Khattab, Hasibu anfusakum, qabla an tuhasabu, jugez vos âmes avant que vous soyez jugés. De manière générale, ici, on a abordé donc les dangers de la langue, les méfaits, les remèdes. De manière générale, l'individu doit maîtriser sa langue et également garder le silence quand il faut. Le silence est louable. Parfois, le silence doit ne pas n'est pas forcément louable. Parfois, le silence n'est pas forcément opportun, et notamment dans les affaires où il est du devoir du musulman de condamner certaines situations. Et comme le fait de voir un vol, par exemple, le fait de voir quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui manque de respect, on ne doit pas garder le silence. Car le fait de garder le silence, il y a une manière de cautionner l'acte qui est fait. Et si, ici, c'est ce que nous dit Abu Ali al-Diqaq, il nous dit « Man sakata anil haqq, fa huwa shaytanun akhras ». Celui qui garde le silence face à la vérité, alors il est un diable muet. Un diable muet. Donc voilà concernant le premier enseignement au niveau de la maîtrise de la langue. L'autre enseignement ici qu'on peut tirer, c'est du hadith. C'est lorsque le prophète nous dit « Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarah, falyukrim jarah. » Et donc celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Et ici, subhanallah, quand on médite sur cet enseignement également, on se pose la question de savoir est-ce qu'on est réellement un bon voisin. Soi-même. Chacun, on se pose la question, est-ce que réellement on est un bon voisin? Est-ce que je ne suis pas quelqu'un qui cause du tort, des nuisances, du bruit, parfois dans la journée ou la nuit surtout? Est-ce que mon stationnement n'est pas un stationnement gênant pour mon voisin? Est-ce que je n'ai pas un comportement qui n'est pas forcément adapté avec mon voisin? Est-ce que je le salue? Est-ce que, etc. Donc, est-ce que je lui fais des cadeaux de temps en temps, etc. Donc, est-ce que je suis un bon voisin, en fin de compte? Et surtout, qu'est-ce qui montre que le jour de la résurrection, je pourrais dire que j'étais un bon voisin? Et ici, Allah Ta'ala nous enjoint, nous ordonne la bonté envers le voisin. Dans la sourate les femmes, le verset 36, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ الْآيَةُ. Et donc ici, Allah Ta'ala nous dit, et adorez Allah. Donc ici, subhanallah, le verset commence par l'adoration d'Allah Ta'ala. Et ne lui donnez aucun associé. Donc ici, Allah Ta'ala commence le verset en disant de l'adoration exclusive pour Allah Ta'ala. Et il poursuit, agissez avec bonté. Et donc là, il cite les catégories envers lesquelles on doit agir avec bonté. Agissez envers bonté envers vos pères et mères. Donc il cite en premier lieu les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain et le collègue. Le collègue et le verset continue. Nous, ce qui nous intéresse ici en particulier, le proche voisin, le voisin lointain et également le collègue. Et donc ici, Allah Ta'ala nous enjoint justement à être bon envers ces personnes. Le prophète sallam dira même, concernant le voisin, Mazal Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Hadith rawahu al-Bukhari. Dans ce hadith rapporté par al-Bukhari, le prophète sallam nous dit, l'ange Jibril n'a cessé de me faire des recommandations au sujet du voisin, au point que j'ai cru qu'il allait l'imposer comme héritier. Au point que j'ai cru qu'il allait l'imposer comme héritier. Donc ici, clairement, on voit la place prépondérante qu'a le voisin dans nos relations au quotidien. Il y en est au point que l'ange Jibril insiste sur la recommandation, au point que le prophète sallam pensait, yani, que Jibril allait lui annoncer qu'il allait devenir son héritier, ou l'héritier de manière générale. Yani, ça montre le caractère quand même assez important du voisin. Et ça, ici, ça nous remet en cause à nouveau sur notre relation avec nos voisins. Est-ce que nous sommes nuisibles ou pas pour nos voisins? Est-ce que nous sommes de bons voisins? Donc ici, cette question doit nous revenir systématiquement en fin de compte. Ici, quand on dit le fait d'honorer son voisin, al-ikramu ilal-jar, ici, les savants nous disent deux choses. La première chose, c'est le fait d'être bon, donc envers son voisin. Tout simplement, le fait de lui offrir des choses, le fait de lui faire un sourire, tout simplement. Donc, comme nous dit le prophète sallam dans le hadith, La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walaw an talqa akhaka bi wajhin talq. Wa idha sana'ta marqatan فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها. Donc ici le hadith nous dit, ne néglige pas les bonnes actions, petites soient-elles, comme le fait de rencontrer son frère avec un visage joyeux. Ou encore, si tu fais un repas, augmente la quantité d'eau et prépare-en pour ton voisin, pour lui en donner. Donc ici, on voit très clairement que le fait d'être bon, ça signifie également de partager des choses avec lui, ou également tout simplement le fait de lui faire des sourires quand on le croise et ne pas montrer justement un sentiment d'animosité avec le voisin. Tout simplement le fait d'être bon avec lui. Même si effectivement il peut arriver que le voisin n'est pas forcément dans son bonjour, yani, on ne répond pas, yani, le mal par le mal. Donc c'est tout simplement le voisin, on lui montre systématiquement un visage souriant et si on peut lui offrir quelque chose, on lui offre par la suite, Inch'Allah Ta'ala. Également, ce qu'on nous dit concernant Al-Ikram, c'est le fait de ne pas lui causer du tort au voisin. Quand on parle de l'ikram, c'est d'être bon envers lui, le sourire, offrir éventuellement des choses, mais surtout, et surtout, c'est le fait de ne pas lui causer du tort au voisin. Comme nous dit ici le prophète dans le hadith, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Donc il répéta trois fois, je jure par Allah qu'il ne croit pas, je jure par Allah qu'il ne croit pas, je jure par Allah qu'il ne croit pas. Donc ici, on parle de la croyance complète ici. Le fait de la foi complète ici. Qalu man ya Rasulallah. Il dit, yani, qui ya Rasulallah? Qui est cette personne qui ne croit pas, sur qui tu jures trois fois comme ça? Man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses mauvais agissements. Celui qui, justement, yani, va être mauvais avec son voisin. Qui va le perturbé, qui va le troubler, qui va causer du tort à son voisin, qui va faire du bruit le soir, qui va se stationner de manière très très gênante pour le voisin, qui va lui manquer de respect quand il lui parle, qui quand il le voit, il le perturbe, Il manque du respect quand il le parle. Il est agressif envers son voisin. Le prophète parle de celui-ci. Celui-ci. Yani, il ne croit pas, il ne croit pas, il ne croit pas. Yani, celui qui justement, le voisin, son voisin n'est pas à l'abri de ses agissements. Également, il est ici intéressant de définir qui est le voisin réellement. Parce qu'effectivement, est-ce que le voisin, c'est uniquement celui qui est collé à ta maison? Est-ce que le voisin, c'est uniquement celui qui est collé à ta maison? Et ici, les savants, comme ici l'imam Nawawi dans le commentaire qu'il fait du hadith, il nous dit effectivement, il y a quatre types de voisins. Et effectivement, quand on écoute ces quatre types de voisins, subhanallah, on se pose la question en fin de compte, est-ce que réellement, yani, on est bon de manière générale avec nos voisins? Parce que regardez bien les quatre catégories. Première catégorie, ceux qui vivent avec toi, sous le même toit. Donc ici, alhamdoulilah, donc ce sont les premiers concernés, ceux qui sont avec toi, donc qui sont le plus à tes côtés, la cellule familiale, sont les premiers concernés par le hadith. Donc effectivement, ils sont systématiquement à tes côtés. Donc, yani, c'est la première catégorie. Comme nous le dit le prophète sallam, khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. Donc le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur auprès de sa famille, celui qui est bon envers sa famille. Et moi, je suis, yani, le meilleur où je suis bon envers ma famille. Donc ici, effectivement, la première chose, yani, première chose à comprendre ici au niveau du voisin, c'est que déjà, dans sa cellule familiale, faut que déjà, yani, l'individu soit, il honore sa famille, il respecte les membres de la famille, etc., que dans les relations, les choses soient saines dans les relations. L'autre catégorie, c'est le voisin classique, collé à la maison. Le voisin de palier, celui qui est juste à côté de nous ou en face de nous, si on a un appartement. Donc le voisin qui est vraiment collé à notre maison ou à notre appartement. L'autre catégorie, ce sont tous les voisins sur un périmètre de 40 maisons. Tous les voisins sur un périmètre de 40 maisons. Donc ici, ils sont considérés également comme étant nos voisins. Et ici, l'imam Nawawi va encore plus loin. Il nous dit tous les résidents du pays. Tous les résidents du pays que tu pourrais côtoyer, effectivement, sont considérés comme tes voisins. Car effectivement, les nuisances peuvent leur arriver. Le fait que tu te déplaces, etc., yani, tu causes du tort à un habitant du secteur où tu es, ou de la ville où tu es, ou du département où tu es, ou même tu te déplaces dans le pays, tu causes du tort à un citoyen, effectivement, tu as causé du tort à un voisin. C'est considéré ici comme un voisin. Donc ici, lorsqu'on médite un petit peu cette explication du hadith de l'imam Nawawi, rahmatullah alayh, on s'aperçoit qu'en fin de compte, le musulman doit du respect à sa famille, premièrement, et effectivement ici c'est la base, également à son voisin de palier, mais également à l'entourage dans son quartier, mais également à tous les citoyens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, et nous aurons des comptes à rendre là-dessus, subhanallah. Ici, c'est à méditer, nous aurons des comptes à rendre là-dessus. Et ici, subhanallah, d'autant plus concernant les voisins qui ne sont pas musulmans. Qui sont musulmans, effectivement, on aura des comptes à rendre, mais également voisins qui ne sont pas musulmans, parce que bien souvent, malheureusement, on se dit c'est pas des musulmans, donc non, non, ils ne méritent pas mon respect, etc., ils ne méritent pas mon attention, mais malheureusement, pas du tout, pas du tout. Car effectivement, ces voisins qui ne sont pas musulmans, qu'est-ce qu'ils pensent de l'islam en voyant telle ou telle personne musulmane qui commence à voler, qui commence à insulter, qui commence à tricher, qui commence à manquer de respect, qui commence à frapper? Quelle image aura-t-elle de l'islam? Car effectivement, on ne va pas se mentir, on représente la vitrine de l'islam. Le musulman, il est la vitrine de l'islam. Il est la vitrine, il est ambassadeur de sa religion. Donc, ce qu'il représente aux yeux du non-musulman, c'est l'idée qu'il s'en fera de l'islam. Il se fera cette idée-là de l'islam. Il se fera l'idée de ce qu'il voit à travers le comportement des musulmans. Donc ici, on a une responsabilité d'être ambassadeur de notre religion. Allah. Donc, autant on doit respecter le voisin, comme nous le demande Allah Subhanahu wa Ta'ala et son prophète, mais également on a une responsabilité en tant que représentant de notre religion. En tant que représentant de notre religion. Le dernier enseignement ici concernant le hadith, c'est concernant l'invité. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah. Donc celui qui croit en Allah Subhanahu wa Ta'ala et au jour dernier, qu'il honore son invité. Qu'il honore son invité. Et ici, au même titre que la bonté envers le voisin, le musulman se doit d'honorer son invité. Donc, comme le fait de le mettre à l'aise lorsqu'il vient. Bien évidemment, lorsqu'on parle d'un invité, que ce soit l'invité qui vient de manière ponctuelle ou que ce soit la personne qui vient, qui voyage, un proche qui voyage, qui se déplace pour nous rendre visite, à ce moment-là, on doit prendre soin de lui, lui donner de la bonne nourriture, lui proposer un emplacement adéquat pour pouvoir se reposer. Et ici, les savants nous disent que lorsque quelqu'un vient en tant qu'invité, notamment celui qui voyage pour nous rendre visite, il doit avoir l'hospitalité, s'il le souhaite, bien sûr, minimum d'un jour et une nuit. D'un jour et une nuit. Si cet invité dépasse, ou dépasse 3 jours, donc il souhaite dépasser 3 jours, donc il ne doit pas dépasser 3 jours en principe, pour ne pas causer du tort à la personne qui l'accueille. Mais s'il décide de dépasser 3 jours, alors à ce moment-là, de demander l'autorisation à la personne qui l'accueille pour ne pas la perturber, pour ne pas la déranger. Mais le minimum, c'est un jour et une nuit pour la personne qui vient de donner l'hospitalité, si elle le souhaite, bien évidemment. Alors quand on voit tout ça, subhanallah, quand on voit tous ces enseignements qu'on a tirés du hadith, que ce soit la préservation de la langue, des relations avec notre entourage, comme le voisin, dans son sens global, comme on a pu l'expliquer, mais également aussi l'invité, tous ces enseignements, subhanallah, toutes ces vertus, en fin de compte, elles nous montrent la beauté de cette religion. Elle nous montre la beauté de cette religion et elle nous montre qu'en fin de compte, cette religion, lorsqu'elle est pratiquée comme il le faut, elle préserve la communauté de tous les troubles et elle permet de vivre en paix et dans le respect. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم